Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comment améliorer les conditions de travail des infirmiers en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, avec nos invités. Nous aurons le professeur Komba Tieko, président de l'Ordre national des infirmiers, et Nicole Mouyoulou, directeur de l'Institut supérieur des sciences infirmières de Moncolé. C'est avec ces deux invités qu'on va aborder à ces sujets. Si vous êtes intéressé, je rappelle le numéro des contacts, c'est les 081-890-6394 ou encore les 099-706-6394. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse et service@radiocapi.net.
Protégeons l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Cela pour sauvegarder et privilégier à tout prix ses droits en considération de ses différents besoins, moraux, affectifs et physiques.
Ceci est un message des Nations Unies relayé par l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, la jeune et petite fille, une structure du ministère du Genre, Famille et Enfants.
Alors que le monde est plongé dans une crise sanitaire depuis plus d'un an, les personnels soignants, notamment les infirmiers et les infirmières, se retrouvent en première ligne de la prise en charge médicale des patients dans les hôpitaux publics et privés de Kinshasa et des autres villes de la RDC. Cependant, la majorité de ces personnels de santé travaillent dans des conditions précaires alors qu'ils sont appelés à administrer de soins aux patients chaque jour pour avoir un peu de ressources financières. Certaines infirmières et quelques infirmiers non mécanisés s'adonnent à la vente de certains médicaments essentiels et des seringues aux patients hospitalisés. On qualifie d'ailleurs ces phénomènes des pharmacies en poche dans les hôpitaux publics de Kinshasa. Alors, que faut-il faire pour améliorer les conditions de travail des infirmiers en RDC? Nous avons déjà le premier invité en ligne, professeur Komba Tieko. Bonjour, professeur Komba Tieko.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je ne suis pas professeur, je suis monsieur Komba Tieko.
Ah, d'accord. Merci de la précision. Alors, oui. Vous êtes président de l'Ordre national des infirmiers, c'est ONU en sigle, c'est bien ça?
Oui, oui, oui.
D'accord.
Oui.
Alors, on va parler de conditions dans lesquelles travaillent les infirmiers en RDC. Il y a même un phénomène dans certains hôpitaux publics qu'on appelle pharmacie en poche. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des infirmiers, des infirmières non mécanisées qui s'adonnent à la vente de certains médicaments essentiels et des seringues aux patients hospitalisés. Question de se trouver un peu de moyens compte tenu de conditions dans lesquelles ils travaillent sans beaucoup de ressources. Et avant de parler de l'amélioration de conditions de travail des infirmiers ici en RDC, dites-nous un peu dans quelles conditions vous travaillez.
Merci bien, monsieur le journaliste. Les conditions de travail, il faut tenir toujours compte du contexte. Hein. Le pays est dans cette situation-là.
Oui.
Ce n'est pas seulement particulier pour le secteur de la santé. Dans plusieurs domaines, on sait dans quelles conditions les gens travaillent. Mais particulièrement pour le domaine de la santé, il y a des situations qui sont vraiment déplorables. Mais on a aussi des situations qui sont bonnes et les gens travaillent dans les meilleures conditions. Mais là où on travaille vraiment dans les mauvaises conditions, c'est déplorable de voir les gens qui sont venus au travail pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour sauver des vies humaines, mais se retrouvent... Bon, si vous parlez encore des petites pharmacies, Mais je vous dis, on a des hôpitaux où l'enfant, on doit lui mettre une perfusion, mais on n'a pas d'esparadrap. On demande à la maman de tenir la main de l'enfant jusqu'à la fin de la perfusion. Nous avons des hôpitaux comme ça, ou des structures de soins comme ça dans le pays. Hein, c'est déplorable, bien sûr. Mais cela n'ouvre pas la voie à des pratiques condamnables telles que la vente de médicaments dans les poches. Ça, c'est vraiment condamnable et c'est déplorable, malheureusement.
Alors, moi, je parle de seringue, vous parlez même de sparadrap. Et bien, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut bien faire lorsque les besoins s'imposent? Et comment vous faites pour vous débrouiller?
Ah, bon, vous avez bien dit le mot débrouiller. Vous savez, par exemple, l'infirmier a étudié ce que nous appelons les techniques des lits. Comment faire un lit, comment refaire un lit. Parce que le malade doit être dans un confort. Allez-y savoir s'il y a combien d'hôpitaux aujourd'hui qui ont encore des draps. Donc, ce qu'on apprend à l'école, on veut trouver des hôpitaux qui n'ont pas de lits. Vous trouvez des hôpitaux qui ont des lits qui n'ont pas de matelas. Vous trouvez des hôpitaux où on a un député a fait un don de matelas, ils n'ont pas de lits, on met donc le matelas par terre. C'est dans ces conditions-là. Étant donné qu'il faut sauver les vies, on travaille de cette façon-là. On travaille de cette façon-là. Même s'il faut piquer quelqu'un par terre, sous les matelas qu'on a posés par terre, on va les faire parce que sinon, ça va être la catastrophe. Les conditions sont très, très difficiles. Bon, on se débrouille. On fait presque des soins de santé de guerre.
Alors, on fait comme des soins de santé de guerre, c'est-à-dire qu'on se débrouille comme un peu, comme on dit généralement.
On n'a pas d'alcool pour désinfecter. Bon, vous prenez des savons, vous lavez l'endroit où vous devez injecter et vous injectez la personne. Maintenant, on prend les papiers mouchoirs comme des louates. Il faut mettre de l'alcool sur de l'ouate pour désinfecter, mais il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'ouate. Eh bien, vous vous contentez du papier mouchoir. Bon, si vous avez encore de l'alcool, mais sinon vous lavez, vous essuyez ça et vous piquez.
Et c'est aussi le cas dans le service des urgences, ou bien là, c'est un peu plus différent. On essaie un peu d'avoir le minimum nécessaire.
Bon, il y a des structures qui ont des services d'urgence. Passable, je peux me dire, mais beaucoup, c'est on n'a que les noms des urgences, parce que vous arrivez là, c'est une série de papiers qu'on vous donne. Bon, à vous de vous débrouiller avec aller chercher des produits, aller chercher des bistouris, aller chercher des fils de suture, aller si c'est ça, mais il y a des endroits où vous arrivez, bon, on vous prend au moins en charge pour le premier soin, mais il y a des endroits où vous n'avez même pas intention de mettre.
Voilà, là, c'est la description que vous faites des conditions dans lesquelles vous travaillez à ces jours dans les hôpitaux publics et même privés de la RDC pour ce qui est des infirmiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut urgentement faire pour améliorer vos conditions de travail?
Eh bien, comme nous l'avons dit hier dans notre discours, l'hôpital, c'est le premier reflet, le premier recours de toute une population. L'hôpital, c'est le meilleur cadre de vie pour l'infirmier. Meilleur cadre de travail pour l'infirmier. Parce que nous passons plus de temps dans nos hôpitaux que dans nos maisons. Donc, il faut remettre l'hôpital à sa place, bien définir ce que nous voulons de nos hôpitaux, mettre de la bonne gestion dans les hôpitaux, parce que une dimension qu'on semble toujours négliger, tout le monde dit que nous n'avons pas tel matériel, mais vous trouvez les mêmes dirigeants de cet hôpital-là en train de se construire des hôtels et des maisons. Il y a de quoi. J'étais dans une province, j'ai vu une salle d'accouchement qui ne répondait à aucune norme. Mais on me disait que les médecins de l'hôpital-là étaient en train de construire un flat. C'est la fin de l'hôpital qu'on détourne. Mais l'État doit reprendre ses prérogatives sur les hôpitaux. C'est tout d'abord l'affaire de l'État. De la bonne gestion, parce qu'on peut amener les médicaments, on peut amener tous les matériels. S'il y a de la mauvaise gestion, eh bien, on va seulement permettre à une catégorie de gens qui dirigent les hôpitaux à s'enrichir inutilement comme ça. Donc, il faut que l'État récupère ses pouvoirs, financer les hôpitaux, contrôler tout ce qu'il y a dans un hôpital comme recettes, comme matériel, parce qu'il y a des matériels qui quittent les hôpitaux de l'État pour aller chez les privés et faire ces mouvements-là. Il faut que l'État récupère. Que l'État mette de la discipline dans les hôpitaux. C'est l'affaire de l'État congolais. de mettre de la discipline. Les gens ne doivent pas arriver quand ils veulent et partir quand ils veulent. Non, il y a une réglementation. Il faut que l'État récupère son pouvoir.
Voilà, Monsieur Kombodjeko, on vous garde encore à ligne. Il y a déjà des intervenants qui aimeraient bien intervenir par rapport à ces sujets sur comment améliorer les conditions de travail des infirmiers en RDC. Nous disons aussi merci. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions qui nous sont parvenues sur la page Facebook au Capi Service par rapport à ces sujets. On va les découvrir. On va découvrir quelques-unes de ces réactions. Et je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la PC, votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service, nous parlons de comment améliorer les conditions de travail des infirmières en RDC. Le numéro d'appel, si vous êtes intéressé, composez les 081-890-6394 ou les 099-706-6394. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook au Capi Service.
Radio Okapi.
À Kikwit.
Okapi.
Sur 103.5 FM.
Okapi.
On va prendre le premier auditeur qui est en ligne, qui nous appelle de Lubumbashi, j'imagine. C'est Charles qui nous appelle de Lubumbashi. Charles, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Charles qui s'invite à la guetta de Lubumbashi.
On vous écoute, Charles.
Oui, merci pour l'opportunité. Vraiment, en RDC, comme nous le disons toujours, les priorités sont à tous les niveaux, monsieur le journaliste. D'abord, dans TDG, j'ai compati avec mes compatriotes infirmiers. Parce que si je me tiens vraiment à comparer les situations socio-économiques à la nôtre, nous qui sommes enseignants, vraiment, on dirait que nous sommes les jumeaux. Alors, comme proposition pour eux, peut-être, c'est leur inviter tout simplement à s'autoprendre à charge, à avoir des initiatives privées. Car pas seulement le gouvernement est incapable, mais aussi mes recherches indiquent que leur secteur est devenu aussi parmi les mieux saturés du pays. Alors, vraiment, dans nos hôpitaux, les hôpitaux sont devenus saturés. Alors, ils demanderaient à se prendre la charge tout simplement, sinon ils ont aussi droit à la vie. Voilà, c'est ma petite proposition.
Et quand vous dites qu'ils doivent se prendre en charge tout simplement, soyez un peu plus explicite, Charles, qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, se prendre en charge, cela veut dire que c'est créer leurs propres activités au lieu d'être toujours à la demande d'emploi, comme c'est le cas chez nous à l'RDC.
Merci, Charles, d'avoir appelé de Lubumbashi. Roger, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Roger.
Oui, bonjour, aujourd'hui, c'est Roger Kama, ici à Kinshasa. Bonjour aussi à l'invité.
Voilà, c'est Marcel qui est à l'antenne. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur comment améliorer les conditions de travail des infirmiers en RDC?
Oui, hein, c'est vraiment un grand problème ici chez nous, Marcel. Vous savez, les infirmiers, le travail qu'ils parviennent à nous rendre ici en RDC, c'est un travail énorme. Alors, l'État congolais doit faire un effort de pouvoir répondre aux conditions de vie des infirmiers. Imaginez les infirmiers qui ont des arriérés de salaire, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils ne sont pas payés. Et je peux aller même plus loin avec les équipes de riposte qui réclamaient leur salaire récemment. Donc, cela montre qu'il y a beaucoup de désordre dans notre pays. Mais si le gouvernement prend ses responsabilités en main, de pouvoir prendre soin de ces personnes qui ont donné leur vie pour servir le peuple congolais, je pense que ce serait une bonne chose. Vous savez, moi, je connais un infirmier qui a plus de 20 ans dans sa carrière en tant qu'infirmier. Mais s'il vous parle, il vous donne ses conditions de vie, ou bien si vous voyez ses conditions de vie, vraiment c'est précaire et vous ne pouvez pas imaginer. Alors, la bonne chose à faire, c'est de pouvoir prendre soin de ces personnes. Alors, je me pose la question. Je peux poser même à l'invité la question.
Oui.
À quoi servent les réseaux ou soit les syndicats des infirmiers? Quel est leur travail? Qu'est-ce qu'ils font pour répondre aux conditions de vie des infirmiers? Ou peut-être ils sont là pour sanctionner et recevoir de l'argent par-ci, par-là, les contributions, tout ça, tout ça. Mais pour se focaliser sur la vie des infirmiers, je me pose la question. Quel est leur travail? Ils doivent se mettre à travailler. Travailler, ce n'est pas seulement que non, compter le nombre de médecins ou des infirmiers, Mais savoir, nous avons combien de médecins, c'est exact. Comment ils sont rémunérés? Quelle est leur condition de vie? Voyez un peu. Donc, ce genre de choses, s'ils ne sont pas résolues, ça sera très difficile pour que la condition de vie des infirmiers au Congo puisse s'améliorer.
Voilà, merci Roger d'avoir appelé des Kinshasa. On va se rendre à Béni, où Mathieu Cassi nous appelle de Béni. Bonjour Mathieu.
Bonjour messieurs les journalistes, merci pour de nous accorder la parole.
On vous écoute.
Oui, à ce qui concerne cette journée des infirmières et infirmiers, je voulais dire que les infirmières, avec les infirmiers de la République démocratique du Congo, traversent des difficultés énormes dans leur travail avec, premièrement, les hôpitaux mal équipés, surtout dans notre milieu ici à Béni, là où on a des situations de guerre. Vraiment, c'est compliqué. Et donc, nous avons des infirmières et infirmiers qui ont des matricules, mais qui n'ont jamais pris aucun paiement, donc des NP, à terme de leur salaire. Donc, il y a un nombre élevé des infirmières et infirmiers qui ne sont pas aussi mécanisés. Cela fait en sorte que ces infirmières et infirmiers ne sont pas bien pris donc à charge par l'État congolais. Et donc, il faut aussi relever qu'il y a des structures sanitaires dans lesquelles ces infirmières et infirmiers travaillent ne sont pas bien équipées, comme je l'ai soulevé, notamment par des matériels adéquats. C'est là ce qui pouvait aider à ce qu'ils puissent au moins travailler dans de bonnes conditions. Pour moi, cette journée mondiale des infirmières et infirmiers doit interpeller premièrement les autorités à pouvoir évaluer le grand travail qui est fait par ses compatriotes dans les domaines médicaux et voir comment on peut trouver des solutions idoines à leurs problèmes. Parce que vraiment, lorsque je suis en train de voir parmi les secteurs d'intervention de l'État, il y a aujourd'hui, on a du mal à préciser même un secteur qui évolue très bien. Et donc, moi, je pense que pour améliorer les conditions de travail des infirmières et infirmiers en République démocratique du Congo, premièrement, l'État congolais doit d'abord équiper des équipages, comme je l'ai dit, des matériels adéquats à toutes les structures sanitaires publiques, mais aussi que les infirmières et infirmiers qui sont des NP, non payés, mais aussi les autres là qui ne sont pas mécanisés,
oui,
qui puissent au moins jouir de ces droits aux côtés de notre gouvernement.
Merci.
Oui. On aura déjà amélioré le travail des infirmiers.
Merci Mathieu d'avoir appelé des Béni. On va en profiter pour lire cette réaction qui vient également de Béni. C'est sur la page Facebook au Capi Service. C'est Rémi Ndjalumbo qui nous écrit depuis la ville de Béni. Il est technicien de laboratoire. Il nous écrit ceci. Les infirmières et infirmiers se sacrifient en première ligne de la prise en charge médicale des patients dans les structures sanitaires publiques et privées alors qu'ils traversent des difficultés énorme dans leur travail ici chez nous à Béni. C'est une situation très difficile qu'un infirmier puisse mieux gagner sa vie dans une structure. Nous avons le numéro matricule sur lequel nous n'avons reçu aucun paiement sur notre salaire il y a 6 ans environ. Et ici chez nous à Béni, vous allez rencontrer un nombre très, très élevé des infirmiers NU. Qui n'est même pas prise en charge par le gouvernement congolais. Conclusion, nombreux infirmiers et infirmières continuent à œuvrer dans les structures sanitaires sans être inscrits sur la ligne de l'ordre national des infirmiers. Voilà pourquoi il y a des dérapages et ventes informelles de produits médicamenteux dans les hôpitaux. On revient à notre invité à Komba Djeko. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces interventions? Vous avez suivi, il y a Roger qui a appelé des Kinshasa, qui a cherché à savoir à quoi sert la corporation. Qu'est-ce que vous faites exactement pour défendre au niveau de l'ordre, hein, pour défendre les droits et des infirmiers, voir comment améliorer les conditions de travail. Il y a également Charles qui a proposé à ce que, en tout cas, que les infirmiers pensent à se prendre en charge en créant des petites structures de santé. Et il y a également cette réaction que nous avons lue sur la page Facebook de Remus Njalumbo, qui lui dit simplement que les conditions sont vraiment vraiment difficiles et qu'il faudra, comme l'a dit d'autres intervenants, que l'État vraiment puisse se pencher sérieusement sur les conditions du travail des infirmiers. Komba Djeko.
Merci bien pour tous ceux qui ont réagi. Il faut toujours préciser certaines questions, monsieur le journaliste. Nous ne disons pas que tout est mauvais. Sinon, ce serait des catastrophes et des catastrophes dans nos hôpitaux.
Oui.
On sauve ce qu'on peut sauver. Il y a des situations où vous ne savez plus rien faire. Votre bonne volonté ne suffit pas. Il y a des hôpitaux qui sont, surtout les privés, qui sont équipés. Il y a des hôpitaux de l'État qui sont un peu équipés. Il y a des structures de soins où si vous avez un grand tableau avec toutes les spécialités, mais quand vous allez là-dedans, il n'y a presque rien. Bon, on a parlé des problèmes de saturation des hôpitaux avec du personnel. Ça aussi, c'est un grave problème. La loi est claire, qui peut engager, surtout dans les structures de l'État. Mais ici, tout le monde veut engager, tout le monde veut mettre tout le monde à un hôpital. Le fait que les structures de formation, qui ne dépendent pas du ministère de la Santé, ils dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur. Chaque année, dans ce pays, on produit un grand nombre de professionnels de santé, infirmiers, médecins, techniciens, spécialistes en ceci. Le nombre est très élevé par rapport aux capacités d'accueil de nos hôpitaux. C'est encore une affaire de nous les dirigeants, de nous l'État, de nous qui avons une partie d'autorité dans le système. Mais le problème, il est global. Il ne faut pas seulement isoler un secteur. Le problème, il est global. Les gens non payés, oui, on dit un centre de santé doit être dirigé par un infirmier. Bon, si vous avez des centres de santé où vous avez 15 médecins, même les prix de consultation changent, les prix des soins changent, et vous avez des problèmes comme ça. Vous avez un grand nombre de personnes où le personnel vient une fois par mois. Nous avons des structures où vous avez 600 médecins. Et l'hôpital a une capacité de 100 lits. Les gens viennent une fois tous les 15 jours ou une fois le mois. Ce sont des situations réelles dans notre système de santé. S'il faut payer toutes ces personnes-là, ça pose de sérieux problèmes. Parce que quelqu'un qui veut une fois par mois, on va lui donner le salaire, la prime, comme s'il venait tous les jours au service. C'est encore un problème de notre gouvernance. Équiper les hôpitaux, c'est bien facile. Et encore là, il faut voir. Les équiper en quoi? Parce qu'il ne faut pas avoir n'importe quel matériel dans n'importe quelle structure où vous avez un matériel de radiologie pour fonctionner. Il faut vraiment du courant en permanence. Si vous avez des petits groupes électrogènes de 3-4 VA, ça ne peut pas faire fonctionner. Donc il ne faut pas rêver qu'on amène des matériels de scanner là où il n'y a pas de courant. Mais on peut avoir... il y a déjà le minimum qu'on doit avoir. Un lit, un matelas avec des draps, c'est déjà un minimum. Des thermomètres, des tensiomètres, c'est déjà un autre niveau. Des salles de soins équipées, éclairées, sécurisées, c'est une autre dimension. Tout cela fait que il faut donc une politique générale, il faut donc la conscience de chacun de nous pour que nous disions, arrêtons, nous sommes allés trop loin dans le désordre, il y a moyen d'arrêter et de reprendre du chemin.
Avant de poursuivre avec d'autres auditeurs qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez bien essayer de préciser par rapport à ces préoccupations de Roger qui a parlé du syndicat des infirmiers?
Merci bien de me rappeler cela. Les syndicats commencent toujours par le dialogue avec le gouvernement. Si le gouvernement ne répond pas, le syndicat a comme arme, c'est la grève. Moi, je suis le responsable de l'éthique dans les aspects moraux de la profession. Je me dis, lorsque nous entrons en grève, nous avons puni l'État ou nous avons puni la population. Celui qui a perdu son parent, qui a perdu son enfant suite à notre grève, il ne nous pardonnera jamais. Et le jour où l'État nous paiera, nous n'allons pas faire ressusciter la personne qui est décédée. Donc ce sont des questions très délicates, face auxquelles l'État devait être vraiment très réactif pour donner des solutions. Parce que on fait des dialogues, on fait des rencontres, on fait des ateliers, on fait. Bon, on sent que l'État ne nous répond pas. Les syndicats, c'est ça son travail, défendre les intérêts des travailleurs. Eh bien, il a terminé, il dit, je suis fatigué. Il rentre à la base. La base dit, bon, puisqu'on ne nous écoute pas et que nos autorités ne peuvent écouter que le langage de la grève, les gens vont en grève. Mais ce n'est pas la grève d'une boutique. Ce n'est pas la grève d'une menuiserie où, bon, les bois, vous pouvez les refaire après. Ce n'est pas la grève d'un restaurant où, bon, même si après vous allez préparer, les gens vont manger. Mais c'est la vie humaine. Lorsque vous allez en grève, donc vous abandonnez les malades. C'est ça la grève dans les structures de soins. Vous abandonnez les malades. Ils ne peuvent pas se prendre en charge. Ils sont venus vers nous parce que nous avons les capacités intellectuelles, physiques et morales pour les prendre en charge. Nous les abandonnons signifie que, bon, soit vous rentrez chez vous à la maison, soit vous allez à la morgue parce qu'il n'y a que ce chemin-là. C'est très délicat. Ça demande donc que toutes les autorités du pays se penchent réellement à ce dossier-là des soins des malades. Et lorsqu'ils ont commencé des concertations avec les syndicats, qu'on fasse tout vraiment, qu'on n'arrive pas à des mouvements de grève, parce que les syndicats, lorsqu'il est coincé, il n'y a que cette arme-là qu'il peut utiliser.
Monsieur Kombandjeko, on revient à vous. Le temps de nous tourner vers le standard où il y a des auditeurs en ligne. Adolphe qui nous appelle de Bukavu, Alphonse qui est à Ingokolo. Adolphe, vous appelez de Bukavu. Bonjour Adolphe.
Bonjour, bonjour Radio Okapi.
On vous écoute Adolphe.
Oui, ma réaction, je vous remercie par rapport d'abord à l'émission et je salue en passant le président de l'ordre qui est là-bas. Mais moi, personnellement, je pense que par rapport à la question, je suis infirmier, par rapport à la question des infirmiers, c'est une question qui n'est pas toujours considérée par tous les pouvoirs. Alors, comme ce n'est pas considéré, est-ce qu'il n'est-il pas possible de fermer les filières infirmières pour laisser d'autres filières que l'État juge importantes? Parce que toutes les fois qu'on discute, parce que lui a dit non, on ne peut pas faire la grève. Mais la grève est constitutionnelle, c'est garanti. Parce que quand l'État ne veut pas intervenir, mais il fallait se prendre en charge autrement. Merci beaucoup.
Voilà, merci à Adolphe d'avoir appelé de Bukavu. Là, on va à Ingokolo, à Nitori, pour accorder la parole à Alphonse. Bonjour Alphonse.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Marcel, merci beaucoup pour le sujet d'aujourd'hui. Généralement, chez nous, dans les recoins, dans les fonds fins de l'Ituri, là où je suis maintenant à Ingokolo, il y a des petits points ou des petits centres extra-coutumiers dans lesquels moi personnellement j'ai vu même des comprimés qu'on est en train de vendre sur des étalages, pas comme des arachides, comme les haricots comme ça. Ça c'est un constat que j'ai fait. Deuxième constat généralement, c'est que dans notre milieu, dans les formations sanitaires, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regretter parce que dans les temps, si vous allez vous soigner, on vous donne, vous rentrez avec une quantité importante de comprimés comme ça et ça faisait déjà une garantie de la guérison. Malheureusement, pour le moment, vous trouverez que quelqu'un qui est addict, par exemple, on lui donne seulement quelques comprimés et ces comprimés-là, on va lui dire qu'il le casse en deux ou en trois là. Donc, ça fait que c'est comme si on est en train de faire en sorte que la maladie puisse évoluer. Et ça, c'est un constat général. Comme conséquence, maintenant, beaucoup de personnes qui sont malades sont en train de migrer vers les pharmacies. Un autre constat général, c'est que beaucoup de médecins ou d'infirmiers, donc disons la plupart, ont chacun une pharmacie. Et quand vous allez, ils vous consultent. Maintenant, s'il faut aller vers la pharmacie, même des centres de santé ou de l'hôpital, la plupart vous envoient vers des pharmacies qui sont privées. Alors, ce sont eux-mêmes qui vous orientent alors que c'est leur pharmacie. Ça, c'est le constat général. Et la question que je voulais poser à l'invité, c'est de savoir, lorsque vous êtes malade, par exemple, vous allez chez un médecin, vous allez chez un infirmier, il vous consulte, il trouve que que le diagnostic qu'il a, c'est telle maladie. Ça, c'est dans un centre de santé. Vous allez vers un autre centre de santé, le même infirmier de l'autre côté ou un médecin, il va vous dire le contraire. Je ne sais pas si où se trouve, donc pourquoi cette divergence alors que le malade parle de même langage. Ça, c'est vraiment une confusion pour moi, que l'invité puisse nous aider à éclairer dans ce sens-là. Et puis, enfin, comme deuxième question, c'est que il y a certains, on a constaté que certains médecins ou certains infirmiers, lorsque vous allez vous être soigné, ils vont vous demander si combien vous avez. Donc, le montant, l'argent que vous avez, on va vous donner maintenant le médicament en fonction de cet argent-là. Je ne sais pas si est-ce que on peut tolérer ça, que l'invité puisse nous aider dans ce sens-là. Est-ce que vraiment c'est encouragé? Merci beaucoup, Marcel.
Voilà, merci Alphonse d'avoir appelé Ngokolo Anituri. On va se retourner, revenir à notre invité, Komba Dieko, président de l'Ordre national des infirmières. Vous avez la parole.
Merci bien. Je vais commencer par le dernier intervenant, de Bounia. Bon, les divergences dans les diagnostics. Ici, on vous dit que vous avez telle maladie. Ailleurs, on vous dit c'est autre chose. Bon, c'est pas toujours facile de savoir dans quelles circonstances les choses se sont passées. Parce que celui qui vous a reçu, si réellement il a étudié, il a un diplôme, il est autorisé à pratiquer soit de la médecine, soit des soins infirmiers, il a une démarche qu'il va suivre, qu'il doit suivre d'ailleurs, avant de vous dire que vous avez tel problème de santé. Ce n'est pas comme ça, dans une révélation divine. Non, non, non. Il a une démarche scientifique qu'il utilise et qui lui permet donc, avec assurance, bien sûr, s'il a tous les moyens, à partir des symptômes que tu présentes, à partir des examens des laboratoires qu'il demande ou de radiologie, il peut donc asseoir son diagnostic en disant, vu ceci, je confirme que vous avez été. Mais cette pratique-là où les gens, bon, tel que tu racontes là, toi, tu as ça. Il n'y a aucune confirmation. Quelqu'un peut faire de la fièvre. Il y a plus de 300-400 maladies qu'on peut retrouver avec fièvre. Donc, sur base, quoi, il va vous dire ça. C'est déjà un problème. S'il y a des différences, c'est que l'un d'eux a raison et que c'est le malade aussi. Vous n'êtes pas je sais pas quel terme utiliser pour gober tout ce qu'on vous dit. Non. Sur base de quoi vous nous dites ça? Quel est l'élément qui vous permet de dire que j'ai ça? Vous posez la question le plus aisément et celui qui a des arguments, il va vous répondre. Ceux qui ne veulent pas répondre, c'est qu'ils ils sont des charlatans. Je pèse bien les mots, ce sont des charlatans. Mais celui qui a son bagage normal, il va vous dire, oui, j'ai fait tel examen, j'ai consulté ça, avec ça, voilà ce que ça nous a donné. Voilà même les papiers, les laboratoires nous confirment que vous avez ça. Donc, ça, si ça arrive dans des différences, bon, je ne sais pas dans quel cas. Bon, quand on vous dit, vous avez combien et on vous donne les ordonnances en fonction de cela. Bon, il y a deux aspects là-bas. Soit on vous fait une prescription de médicaments qu'on retrouve localement, qui ne pose pas de problème. Soit on sait que vous pouvez acheter des médicaments, ce qu'on appelle des médicaments de spécialité. Parce qu'il y en a qui disent, non, moi je ne prends pas les médicaments qui sont ici au Congo, donne-moi l'ordonnance, moi je vais acheter dans les pharmacies où on trouve les produits qui viennent d'Europe. C'est le choix de la personne. Mais que la personne qui vous consulte vous dise vous avez combien d'argent et vous indique une pharmacie que vous allez acheter parce que ça lui appartient, ça s'appelle de la malhonnêteté. Et l'ordre des infirmiers, l'ordre des médecins doivent agir en punissant de telles personnes qui font de tels comportements. Bon, le premier, Adolphe de Bouka, vous a dit la grève, elle est constitutionnelle, c'est bien beau de rappeler la loi. Nous respectons cette loi, la constitution, nous respectons. Moi, je n'ai pas condamné la grève. Je n'ai pas condamné. Mais j'ai dit seulement que la vie, ce n'est pas un morceau de tissu que si vous l'avez mal fait, vous pouvez récupérer. La vie, ce n'est pas une chaise. Lorsque le pied de la chaise est cassé, vous pouvez remplacer par autre chose. La vie, une fois qu'on l'a perdue, elle est totalement perdue. Vous pouvez appeler votre fameux pasteur qui peut imposer les pieds, les mains, la tête sur la personne, elle est morte. Donc lorsqu'on fait la grève, cela signifie je ferme mon lieu de travail. C'est ça la première signification. Deuxième signification, je ne m'occupe plus de ceux qui sont là. Or, ceux qui sont là, ils sont venus parce qu'ils savent que ce monsieur a fait des études qui me permettront de reprendre le rythme normal de ma vie. Il n'y a que ça. Bon, quand vous décidez d'abandonner cette personne-là, vous avez toujours raison, et tout ce qui va lui arriver comme conséquence, parce que vous êtes en grève, non. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque le gouvernement commence le dialogue, les concertations avec les syndicats, le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour répondre aux attentes du syndicat et épargner la population des grèves. Ce n'est pas la grève dans un parquet où les magistrats ne viennent plus. Bon, les dossiers, les jours, on peut les reprendre. Si la sanction est votre prison, vous ferez la prison. Nous parlons aussi de la vie. L'hôpital, c'est la vie. On ne vient pas soigner les chiens, on ne vient pas soigner les mouches, on vient soigner des humains. Et lorsqu'ils ont perdu la vie, je ne sais pas par quel mécanisme on va les prendre. Vous faites la grève, on vous paye à la fin 1000 dollars. Vous avez vos 1000 dollars en poche et la famille a perdu. Je suis le responsable de l'ordre, donc de l'éthique. Moi, je ne peux parler que ce langage-là. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc, je n'ai pas à dire que la grève, c'est bon ou c'est mauvais. Non, ce n'est pas ça mon problème.
Là, vous êtes donc en train d'évoquer le côté noble de cette profession d'infirmier. Alors, dites-nous, puisque vous êtes président de l'Ordre national des infirmiers, et comment s'est fait l'inscription à l'Ordre des infirmiers? Quels sont les critères, les conditions, comment ça se passe pour vous assurer que vous avez vraiment de personnes qualifiées, des personnes qui répondent aux critères?
Ok, c'est un sujet important parce que l'ordre, ça va faire au mois de juillet, l'ordre totalisera 5 ans d'existence. Les conditions sont les suivantes. Première condition, ça concerne l'infirmier. L'infirmier, ce n'est pas dans une église, l'infirmier, ce n'est pas dans un marché, c'est dans une école officiellement reconnue. J'insiste, une école officiellement reconnue et tu as fait tous les parcours normaux. Tu as obtenu un diplôme reconnu par l'État congolais. Parce que ce n'est pas, j'ai fait la première année, comme j'étais très intelligent, on m'a amené en troisième année, j'ai terminé. Non, on ne saute pas. Vous nous présentez votre diplôme. Et nous avons tout le temps de vérifier dans votre école si réellement vous avez étudié. Messieurs les journalistes et les auditeurs qui nous écoutent, les trafics de documents, la falsification des documents dans notre pays, c'est un phénomène extraordinaire. Donc, nous devons nous rassurer que réellement, la personne a été atteinte. Parce qu'il y en a qui sont arrivés en dernière année, ils n'ont pas réussi, ils ont abandonné. Mais comme ils savent, ils ont déjà les langages des soins infirmiers, ils savent consulter, ils savent piquer. Bon, ils peuvent se présenter quelque part. Non, moi, je suis infirmier déjà. Si on vérifie, je fabrique un papier avec tout ce qu'on a comme machine aujourd'hui, il peut se fabriquer un papier avec des cachets et tout cela. Non, il faut qu'on aille vérifier d'abord à l'école si réellement vous avez étudié. Deuxième, donc vous avez ce document-là. Deuxième chose, nous avons la fiche d'inscription. La fiche d'inscription, nous avons signé un contrat avec la poste. Étant donné que les bureaux de poste sont dans tous les pays, nous avons déposé dans tous ces bureaux-là les fiches. Vous allez à la poste, vous payez votre droit d'inscription. Les frais d'inscription, c'est pour les A3, c'est 25 dollars. Pour les A2, c'est-à-dire ceux qui ont terminé dans les IT, mais dans les IM, c'est 50 dollars. Et pour ceux qui ont terminé les niveaux supérieurs, c'est 100 dollars. Dans ce frais-là, dans les contrats signés, il y a la part de la poste parce qu'il nous rend un service de déposer les fiches, de les ramasser, de nous les remettre à Kinshasa. Et les autres frais, c'est pour d'autres activités. On ne sait pas étaler tous les détails à la radio ici. Pour notre propre sécurité, ce n'est pas toujours bon de parler de l'argent au niveau de la radio. Voilà c'est comment c'est organisé. Dès que vous avez déposé votre diplôme, deux photos passeport, il y en a même, nous demandons les relevés des cotes, surtout le niveau supérieur. Vous avez des écoles qui apparaissent et disparaissent chaque année. Non, nous devons voir votre relevé des cotes du premier graduat, de deuxième graduat et de troisième graduat. Parce que vous avez étudié une année à Bounia, l'autre année, vous êtes retrouvé à Kasumbalesa. Là, vous terminez vos études au Congo central. Et allons-y, on doit vérifier tout cela. Voilà, voilà ce que nous pouvons dire, monsieur le journaliste.
Voilà, merci de toutes ces précisions pour l'inscription à l'ordre d'un soir des infirmiers. On poursuit avec notre sujet sur comment améliorer les conditions de travail des infirmiers avec deux auditeurs qui sont en ligne, Pitié, qui nous appelle de Boutembo, et également à Janice qui est à Likasi. Si vous venez de nous joindre en cours, c'est votre magazine Okapi Service. On parle donc de ces sujets, comment améliorer les conditions de travail des infirmiers en RDC, avec Komba Djeko, le président de l'Ordre National des Infirmiers. Si vous êtes intéressé, voici le numéro d'appel: 081 890 63 94 ou 099 716 63 94.
Okapi Retro. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi Babina Musique Africa.
Africa.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Voilà, Pitié nous appelle de Boutembo. Bonjour Pitié.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet? Comment améliorer les conditions de travail des infirmiers en RDC?
Mais il fallait qu'on puisse payer les infirmiers pour ne pas faire les ventes de médicaments à poche.
Et c'est tout ce que vous avez à dire, ou il y a autre chose?
Oui, c'est tout cela.
Voilà, merci Pitié d'avoir appelé de Boutembo. Janice, vous êtes à Janice, vous êtes à Likasi. Bonjour Janice.
Bonjour monsieur l'animateur.
On vous écoute Janice.
Ok, merci beaucoup. En premier lieu, nous disons mieux vaut tard que jamais. Nous présentons à tous les infirmiers une bonne fête pour la journée internationale et notamment le président national Komba Djeko. Alors oui. Concernant le sujet d'aujourd'hui, je dis ceci, j'apporte trois petites propositions pour améliorer les conditions de travail des infirmiers. Nous proposons que le ministère de la Santé de notre pays, via le secrétariat général, d'avoir beaucoup de légèreté dans la discipline professionnelle, dans le travail, dans les structures de l'État. Deuxièmement, nous proposons un nettoyage dans ce secteur pour identifier rigoureusement des infirmiers qualifiés et non les infirmiers transformés sur les tas qui s'appellent aussi infirmiers. Et cela apporte ce comportement que les gens commencent à avoir des produits dans leur poche. Troisièmement, nous proposons l'amélioration des salaires des infirmiers qui passent 24 heures sur 24 au chevet des malades. Si ces infirmiers, sur le plan social, ne sont pas bien stables, là, il commence à utiliser tout le moyen des bords, même insidieusement, pour pouvoir améliorer leur mode de vie. C'est ainsi que je pose deux petites questions à l'invité, qui est le président de l'Ordre national des infirmiers. Qu'en est-il du nouveau statut des infirmiers inscrit au tableau de l'Ordre? Et deuxième question, quel est le sort de ceux qui ne sont pas inscrits au tableau de l'Ordre jusqu'à ce jour? Quelle est la dernière décision?
Voilà, merci Janice d'avoir appelé de Likasi. Monsieur Komba Djeko, vous avez la parole.
Merci bien pour les deux auditeurs qui venaient d'appeler. Étant donné que le sujet c'est au niveau de comment améliorer les conditions, monsieur Janice, permettez-moi de vous faire un petit commentaire avant de répondre à leurs préoccupations.
Allez-y.
Quand à l'hôpital, tout d'abord, l'infirmier doit avoir l'uniforme de travail. Les lois de ces pays disent que les tenues de travail sont à charge de l'employeur. L'employeur qui est l'État congolais, l'employeur qui est soit l'hôpital de l'État ou l'hôpital privé. Allez savoir dans ce pays combien de structures donnent les tenues de travail à leurs travailleurs. Je ne sais pas s'il y en a encore. C'est anormal. Quelqu'un termine les études pour commencer à travailler, il doit aller acheter, comme c'est à Kinshasa, ce qui est anormal, on vend les tenues du personnel de santé dans les marchés. Ça ne se fait nulle part, ça ne se fait nulle part, si ce n'est que dans notre pays. Deuxième chose, il faut qu'on mette du matériel. Et dans le matériel, nous avons par exemple, aujourd'hui avec Covid, il faut du matériel de protection. On peut avoir la bonne volonté, toutes les intelligences du monde, mais vous n'allez pas commencer à prendre des malades comme ça si vous n'êtes pas suffisamment protégé. Il faut mettre du matériel de travail, il faut donner la motivation financière. Ce qu'on produit déjà à l'hôpital, les gens se le partagent, sur quelle base? Il y en a qui ont 2000, il y en a qui ont 4000 francs congolais. Qui ont 2000 dollars, il y en a qui ont 4000 francs congolais. C'est sur quelle base on fait toutes ces choses-là? Ce sont des éléments de démotivation et les soins ne seront jamais de qualité. On doit respecter les droits de l'homme dans nos structures de soins. Quant aux auditeurs qui ont posé, merci à l'homme de l'ICACI qui nous a souhaité la bonne fête, merci beaucoup. Il faut remettre de la discipline dans nos hôpitaux parce qu'il y a beaucoup de légèreté. Oui, nous reconnaissons cela. Qu'il faut nettoyer les fichiers, tout cela, pour savoir qui est infirmé et qui ne l'est pas. Et le deuxième m'a demandé, ceux qui ne sont pas inscrits. Mais la loi, elle est claire. La loi dit, nul ne peut exercer les fonctions d'infirmier en République démocratique du Congo s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Donc, ça ne demande même pas la police pour ça. Le responsable de la structure doit dire qui est autorisé à travailler chez moi, même si c'est le ministre qui a recommandé quelqu'un. Mais s'il n'est pas inscrit, il n'est pas reconnu, donc il est en violation de la loi, c'est déjà au niveau de la structure. Il ne faut pas demander que quelqu'un qui quitte ça pourrait faire partie, quelqu'un qui a qui pushy. Non, le médecin directeur, le médecin chef de zone doit savoir est-ce que ceux qui travaillent dans ma zone de santé ici sont reconnus par l'État congolais, sont autorisés par l'État congolais à travailler. S'ils ne sont pas, il faut les faire partie. Ça ne demande même pas la police, ça ne demande pas le parquet. Donc, la responsabilité de chaque leader. Le statut de l'infirmier, oui, nous avons déjà élaboré les documents. Ils se trouvent dans les pipelines du ministère. Je crois que d'ici là, les discussions pourront commencer et on aura un statut particulier pour les infirmiers de la RDC, étant donné qu'on a déjà un ordre professionnel.
Alors, pour revenir à l'inscription au tableau de l'Ordre national des infirmiers, est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu répertorier tous les instituts liés à l'enseignement pour ceux qui ont des sciences infirmières parce que ça, c'est très important, vous l'avez dit, lorsque l'institution n'est pas reconnue officiellement par l'État congolais, c'est-à-dire que c'est peine perdue, toutes les années qu'on a passées, on les a passées vainement parce qu'on ne sera pas inscrit à l'ordre du fait que l'institution n'est pas reconnue officiellement.
Oui, c'est un sérieux problème, une véritable équation pour quels sont ces instituts.
Oui.
C'est déjà un grand problème. Qui enseigne à ces instituts-là? Parce que là, ce qu'on a amené dans ce pays, vous avez une institution d'enseignement où vous n'avez que, sur les 15 enseignants, vous avez un seul enseignant qui est permanent. Les 14 autres sont des visiteurs, des gens qui viennent de Kinshasa, de Lubumbashi, qui vont se promener dans toutes les provinces comme ça, parce qu'ils sont professeurs ou enseignants. Mais le programme de formation n'a pas été établi de cette façon-là. Vous trouvez des cours, comme on appelle des cours de base. On le balance comme ça pendant 2 semaines. On a terminé le programme. Or, ce cours-là contient des chapitres qui doivent être précédés par d'autres chapitres et d'autres cours. C'est-à-dire pour avoir des prérequis pour comprendre les prochains chapitres. Mais vous avez trouvé dans une institution, vous avez 4 enseignants visiteurs. Celui-là, il a 2 semaines, il a terminé son programme. L'autre commence 2 semaines, il a terminé son programme. Ça, c'est un scandale dans ce pays que des intellectuels de ce niveau-là fassent cette programmation-là de cours de cette manière-là. Bon, nous allons à l'enseignement supérieur. Nous prélevons les listes qu'ils publient chaque année des instituts auxquels ils ont donné des agréments ou des autorisations de fonctionner. Nous nous contentons de ça et c'est sur le bas de ça que nous pouvons vérifier si cet institut a été reconnu par l'État. Mais l'État a donné l'autorisation de fonctionnement. Mais l'État n'a pas fait des inspections pour voir si le programme a été réellement respecté. Mais étant donné que c'est l'État qui a donné les diplômes, bon, vous prenez parce que c'est l'État qui a donné le diplôme. Maintenant, nous sommes en train de discuter avec l'enseignement supérieur pour voir. Il faut qu'il y ait des inspections et la loi nous autorise, nous, hors des infirmiers, à aller vers ces institutions-là en compagnie du ministère de l'enseignement supérieur pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que nous sommes allés dans quelques provinces, on a vu que non, c'est, on ne peut pas former les médecins, les infirmiers, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens dans de telles conditions. Hein, il y a des moments où, pendant 2 mois, il n'y a aucun enseignement. Parce que les professeurs visiteurs ne peuvent pas venir en ce moment-là. Ils viennent à des moments précis quand ils sont dégagés ici à Kinshasa. Les instituts, ils n'ont pas de connexion internet pour dire qu'on a suivi les cours en ligne. Bon, on forme, ce sont des blocs, on vous donne pendant 2 semaines, c'est fini. On veut donner le cours d'anatomie à la fin de l'année parce que les professeurs n'étaient pas disponibles. Or, le cours d'anatomie, c'est la base même de la compréhension de tout ce qui va se passer en médecine parce que c'est le corps humain. Mais ce cours est donné à la fin de l'année ou à la deuxième année de formation.
Voilà, il y a donc du travail aussi à faire
tout à fait. Il y a
voilà.
Le pays est un chantier.
Voilà. Merci à monsieur Komba Djeko. Nous rappelons que vous êtes président de l'Ordre national des infirmiers au Nikonsig. Avec vous, on a parlé de comment améliorer les conditions de travail des infirmiers en RDC. Merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à vous.
Merci beaucoup et bonne fête à toutes les infirmières et tous les infirmiers.